l'actu engagée,
un petit village antifasciste vers la Sorbonne,
la culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le lundi 3 novembre et je suis indignée, en colère, écœurée. Shane, l'indécence sans frontières, des poupées sexuelles à l'apparence d'enfants vendues en ligne sur le site de la marque, puis retirées après coup, des produits abjects, honteux, moralement insoutenables, qui auraient dû être impensables. Et pendant que la stupeur grandit, la marque s'apprête à inaugurer ce mercredi sa première boutique à Paris, au BHV Marais. Non, ce n'est pas un bug ni une erreur technique, comme certains voudraient le faire croire. C'est une faute morale, un crime. Et le simple fait qu'un tel objet ait pu franchir toutes les étapes jusqu'à la vente interroge notre rapport collectif à la décence. Un système qui a perdu le sens du bien et du mal au profit du clic et du profit. Shane n'est pas la seule plateforme et désormais nous devenons tous témoins d'une passivité quand certains en sont les acteurs. La marque nous livre pour la énième fois l'inacceptable. Alors je suis indignée et j'aimerais que cette indignation ne soit pas passagère. Qu'on arrête de se dire c'est le monde d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui, c'est notre tolérance qui est devenue anormale. J'ai lu un jour que nous sommes habités par le bien et le mal et que ces deux forces s'affrontent en nous chaque jour. Et que celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Alors la question est simple, que nourrissons-nous à chaque achat, à chaque clic, à chaque complaisance? Comment cesser de faire gagner ce mal? En arrêtant de le nourrir, en arrêtant d'acheter, en arrêtant de s'excuser. Je nous souhaite de nourrir ce qu'il y a de meilleur en nous, la décence, la conscience, la morale, l'éthique, le bien. Au programme de cette matinale de 19h, on interview, ce sera avec Christophe et nous allons parler cinéma à l'occasion de la sortie du film Nouvelle Vague, réalisé par Richard Linklater, en présence de Benjamin Cléry et de Mathieu Pinchina. Le tour de l'actualité en Flash Info, ce sera Hélène. En Chronique Actu, nous parlerons football avec Tom. En Zoom, ce sera Diane. Cette fois-ci, nous parlerons Expo, celle de Fête Libre et Répression qui aura lieu le 7 et 8 novembre au Sample. En invité, nous serons avec Mathilde Tales of Rave, l'organisatrice. Et enfin, en Chronique Livre, ce sera Eloane. Merci pour votre fidélité. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Tout de suite l'interview, et c'est avec toi Christophe.
Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Benjamin Cléry, Mathieu Pinchina.
Bonsoir.
Est-ce que j'ai bien prononcé vos noms?
Bien sûr.
Je vérifie toujours. Alors vous êtes là pour Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, c'est pour reprendre la formule d'un critique, le biopic d'un film, et quel film? Puisqu'il s'agit d'un classique du cinéma, À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, sorti en 1960. Alors je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais vraiment pas sûr d'aller voir ce film.
Nous non plus.
Pas mentir.
C'est vrai.
Alors si vous non plus, je me sens, voilà, je me sens soulagé. Parce que c'est Godard, parce qu'il y a toute la mythologie Godard, il y a presque un culte Godard, et que c'est parfois un peu casse-pied les cultes. Et puis un ami de confiance me l'a recommandé, j'y suis allé, et c'est bien la preuve que les amis c'est utile et surtout c'est bien, parce que j'ai tout simplement adoré ce film de Richard Linklater, et c'est en partie grâce à vous deux, donc Benjamin Cléry et Mathieu Pinchina, qui est acteur dans ce film, qui révèle une nouvelle vague d'acteurs. Alors visiblement, je n'embrasse pas assez le micro. Et donc une nouvelle vague d'acteurs, il y avait un jeu de mots à ce moment-là. Ah, et ouais. C'est dommage, c'était beau. Oh là là, non, c'était super.
Et drôle, en plus il marche.
Et en plus ça marchait bien. Hein. Et au passage, je disais que j'avais envie de dire qu'il suffit d'aller voir ce film pour réaliser à quel point les metteurs en scène et les producteurs qui font tourner sans fin le même quatuor d'acteurs, Pierre Civil et François Niney, eh bien c'est bien vraiment parce qu'il manque d'imagination et d'audace que parce qu'on manque de talent, car ce film en déborde de nouveaux talents si on sait les chercher, et quand on cherche, on trouve. Donc Nouvelle Vague, c'est l'histoire d'une bande de grands ados qui partent faire un film. On a l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, mais qu'ils en ont une telle envie que ça devient une évidence. La distribution du film est encore une fois formidable, parce qu'elle donne une idée de cette énergie, de cette force de création. Vous, Benjamin Cléry, vous incarnez Pierre Rissian, qui a été l'assistant de Godard, et vous, Mathieu Pinchina, vous êtes, et je vais être obligé de le dire, moteur Raoul Coutard, le chef. Non mais je pense que je vais le dire quatre fois pendant le temps qui m'est donné. Le chef opérateur de ce film. Comment vous êtes arrivés dans cette aventure l'un et l'autre?
Oh. Bah, en gros, pour moi, c'était vraiment une annonce Facebook. J'ai même cru que c'était pas vrai. J'ai cru que c'était une arnaque, ce truc-là. Mais c'est comment, ça a commencé d'une annonce Facebook. Et à partir de là, on a passé les castings, tout ça. Je sais pas comment toi, Mathieu, ça a été.
Moi, ça a été.
Tu veux dire que j'aurais pu faire le rôle?
Ah, mais oui. Vraiment. Mais c'est ça qui est fou dans ce truc. C'est ouais. Que, puisqu'ils recherchaient tout le monde, tout le monde pouvait être dans ce film. C'est exactement ça.
Ah oui, ils ont ratissé très large. Très large. Ouais. Moi, c'est un copain qui a vu l'annonce et qui m'a dit: est-ce que tu peux m'aider pour faire la vidéo code de présentation? Je dis oui, bien sûr. Et après, il m'a dit peut-être qu'il y a un rôle pour toi, je sais pas. Et j'ai un peu senti le côté je vais essayer de te trouver un truc parce que vraiment, je te demande un truc, un service, et donc c'est pour te rendre l'appareil. Et finalement, ça s'est un peu emballé. Et puis un an après, on était à Cannes.
C'est ça allait très vite.
On est passé vraiment de un copain qui toque à la porte à monter les marches à Cannes. Je sers la main de Rachida Dadi.
Oui, bon, écoutez, la Rachida, elle était là.
Ouais, elle était là.
La bonne humeur là qu'on voit entre vous deux, elle était présente sur le tournage?
Non, on se détestait.
C'était horrible, il y avait des tensions de partout. Ah, toujours, je suis machina.
Non, et puis non. Là, on fait semblant, on est des acteurs.
C'est très horrible, tu sais. Non, vraiment, mais ce qui est de fou, c'est que ça s'est créé directement aux essayages costumes, quoi. On était hyper heureux d'être là, et puis on s'est fait des blagues tout de suite.
Ouais, il y a eu un groupe WhatsApp avec tout le monde, avec Zoé Dutch qui joue John Seberg, qui a 1 million de followers sur Instagram, qui est quand même très connu, qui a joué dans des grands films, jusqu'à en passant par nous et jusqu'à Isis. Qui a une demi-journée de tournage.
Oui, exactement. Il y avait vraiment tous les acteurs
étaient dans ce groupe. Ouais. Et ça a été un vrai film de copains parce que, et c'est ça qui est d'ailleurs
qui ressort dans le film.
C'est ça. C'est la grande force du film, c'est le groupe, quoi. Il a su filmer ce qu'il y a au-delà des mots, ce qu'il y a au-delà des relations et le côté humain, le fait qu'on s'apprécie beaucoup. Sauf un ou deux, évidemment.
Oui, il y a toujours.
Quelle image vous aviez de la nouvelle vague, vous, avant de commencer le tournage? C'est une période de l'histoire du cinéma que vous aimez bien, peut-être que vous ne connaissez pas.
Moi, je trouvais ça. Alors, j'étais pas du tout intéressé par la nouvelle vague, mais juste par culture, quoi. Moi, j'étais vraiment intéressé par les films, les nouveaux films, quoi, tout simplement. Et pour ce film-là, du coup, j'ai dû regarder À bout de souffle, que j'ai regardé vraiment littéralement une vingtaine de fois.
Et que tu as détesté parce que tu n'avais pas compris.
Et c'est ça. Non, mais j'ai vraiment eu du mal. Moi, j'ai pas vraiment apprécié À bout de souffle au début. C'est à partir de la 5e fois où j'ai commencé à comprendre le film, à vraiment apprécier. Mais moi, je peux pas dire que Nouvelle Vague, j'ai apprécié énormément. Faudrait que je prenne du temps, je crois, pour apprécier cette nouvelle vague. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé.
Moi, j'étais.
Alors,
plutôt...
vous, c'était Benjamin Cléry.
Oui, c'est Mathieu
Benjamin. C'est mon métier, de dire qui parle.
Qu'est-ce que. La Nouvelle Vague, c'était ça la question? J'avais un rapport très distancieux. Je connaissais deux noms. Pour moi, c'était un truc un peu abstrait. Je connaissais pas bien, j'avais pas vu À bout de souffle, mais j'avais vu Pierrot le Fou, donc je situais vaguement le truc, j'avais vu des films sur Godard, j'avais vu l'Indomptable de Azanavicius. J'avais vu donc j'avais une vague idée de ce que c'était, mais c'était pas du tout ma période de prédilection. Moi, j'ai une grande passion pour le cinéma muet, burlesque, Chaplin, Keaton et tout ça, donc ça, c'est ma période de prédilection. Et donc ça n'a rien à voir avec la nouvelle vague. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle.
Et donc Godard, c'était pas du tout quelqu'un qui était dans votre panthéon à l'un à l'autre?
Non, pas du tout. Et donc, moi, ça me faisait peur, hein, Godard. On parle de Godard, je dis oula, il est bizarre cet homme. Grâce au film, j'ai appris qu'il était pas si bizarre.
Non, mais il était encore plus bizarre que ce qui paraît.
Parce que vous avez la vision du Godard, il est mort il y a quoi, 4-5 ans. Ouais. Donc du Godard des années 2000-2010, qui était vraiment un peu sanctifié, qui était une sorte d'oracle, qui disait des phrases auxquelles on comprenait rien.
Exactement.
Oui, et en même temps.
Qui faisait des films auxquels on comprenait pas grand chose.
Oui, aussi.
Mais comme on était pas des endroits de cinéphilie, on n'a pas fait des études de cinéma, on n'a pas fait, on n'a pas eu cette chose là. Du coup, on n'est pas, enfin, moi en tout cas, je parle pour moi, je suis passé un peu à côté de ce culte. Voilà, c'est un truc où je sais que c'est important, mais comme je comprenais pas pourquoi c'était important, je trouvais pas, enfin, ça me touchait pas plus que ça, quoi. J'ai pas sacralisé le truc.
Ouais, c'est ça. Mais moi, vraiment, j'avais en tête ce Godard qui fait vraiment un peu peur et puis qui fait un peu couillon, quoi. Vraiment, c'est la dernière image qu'on a un peu vue. J'adore Godard, attention que je... Non, mais on a un peu ça en tête quand même sur le Godard de ces années-là. Alors qu'au final, dans le film, on se rend compte que c'est pas ça. C'est ça.
Il a été jeune un jour.
Et oui, exactement, c'est ça.
Comme tous les vieux, il a été jeune un jour.
Exactement.
Est-ce qu'on prépare différemment un rôle quand on sait que les personnes ont existé?
Ça, c'est une bonne question.
Ah, enfin, 19h10, on note.
Ça, c'est
première bonne question, 19h10.
Non, c'est encore une bonne question. Et la boulette.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, c'est vrai, moi j'aime bien cette question. Elle est, parce que c'est, pour moi, ça a été un vrai parcours.
Vous êtes Raoul Coutard dans le
film. Oui, je suis Raoul Coutard, le chef opérateur. Donc je tiens la caméra tout du long. Je suis sur l'affiche, mais caché par la caméra. Ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un qui a existé, qui a été très important dans le milieu, mais qui à l'époque n'était pas du tout connu et pas du tout documenté. Il avait fait quelques films avant, mais très peu. C'est un peu ses troisième ou quatrième film qu'il fait, je crois. Donc j'ai vu les films qu'il avait fait avant, j'ai lu son autobiographie, mais je me suis arrêté juste après, à bout de souffle, parce qu'en fait j'avais pas envie de savoir ce qu'il était devenu après. J'ai vu plein de vidéos d'interviews de lui, mais il était très âgé, et donc en fait ça complique beaucoup le travail, parce que quand une personne très âgée raconte sa jeunesse, on sait qu'il y a le prisme du temps qui est passé, il y a le prisme du souvenir, il y a le prisme de la mémoire qu'il faut prendre en compte. Et ça a été un vrai jeu de piste. Et y a un truc qui s'est débloqué le jour où j'ai vu il a réalisé trois films, dont un qui s'appelle Oabin. Et il fait un petit caméo dans ce film où on le voit poursuivre un enfant qui lui vole je sais pas quoi, et qui lui rend pas la monnaie quand il achète le journal. Et donc en fait ça dure 10 secondes et on le voit debout et on le voit courir. Et en fait de le voir bouger, de le voir entier, jeune, parce qu'à l'époque il devait avoir une quarantaine d'années, donc c'est plus tard qu'à bout de souffle, mais quand même, et ben ça m'a vachement aidé, ça m'a vachement, c'est un truc qui s'est éclairé totalement, j'ai eu d'un coup quelque chose qui a vibré à l'intérieur de moi, et voilà.
Et moi j'avoue que pour le côté Pierre Hessian, moi je joue le premier assistant réalisateur de Godard dans le film, et pour le côté Pierre Hessian, il y a beaucoup de documents, mais pas quand il est jeune. Il est connu aussi beaucoup.
Ouais, c'est une grande figure du cinéma, mais un peu de l'ombre.
Et c'est exactement ça, il a beaucoup bossé pour Cannes, pour le festival de Cannes et tout, mais il n'y a pas beaucoup de documents quand il était jeune. C'est pour ça que moi j'étais allé voir Richard, j'ai dit qu'est-ce que tu veux. Moi,
Richard
Linklater, bien sûr, le réalisateur. J'ai dit est-ce que tu veux un travail de mimétisme ou pas, et il m'a dit non, écoute, Pierre Hessian, on le connaît pas plus que ça. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas même. Tu peux faire une interprétation de toi, de ton Pierre Hessian. Donc c'est mon Pierre Hessian qui a l'image, bien sûr, validée par Richard Linklater. Attention, hein, c'est pas non plus, j'ai pas fait n'importe quoi. rassurez-vous. Mais j'ai eu cette liberté-là. C'est vrai que par contre, quand on voit Guillaume Marbeck qui joue Jean-Luc Godard, quand on voit Aubry Dulin qui joue Belmondo, c'est leur Godard, c'est leur Belmondo, mais la ressemblance est quand même folle, parce qu'on les connaît et on voit le Godard et on voit le Belmondo.
Et ce qui est très marrant, l'un comme l'autre, quand on les voit après, quand on cherche, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, ils ressemblent pas forcément à ce qu'on voit dans le film.
C'est ça,
il faut saluer un énorme travail des costumières, des maquilleuses et de toute l'équipe technique. Déjà visuellement, on a vraiment l'impression d'être dans Paris dans les fin des années 50 quand ça a été tourné. Donc il y a eu un énorme travail de VFX, d'effets spéciaux. Et vraiment, les costumes et les maquillages, les coiffures, ça a complètement chamboulé. Je me souviens, nous, on s'est rencontrés tous le jour des essayages costumes. Et quand j'ai revu les gens après le tournage, qu'ils avaient repris leur coupe de cheveux et leur barbe habituelle, je ne les reconnaissais pas. Il y en a certains que j'ai
dit... qui, toi, Chabrol?
C'est un peu ça. Chabrol, on le reconnaît quand même. Chabrol, il n'a pas changé. Il a gardé son look.
Mais est-ce qu'il y a une espèce de pression morale, entre guillemets, d'être à la hauteur de ces personnages qu'on incarne, et est-ce qu'on a peur de les trahir? Moral, le mot est trop fort, mais...
Ouais, mais le mot est trop fort, moral. Enfin, pour moi, non, il y a vraiment un truc...
Je pose la question autrement. Est-ce que si vous rencontrez des gens qui les ont connus et qui vous disent « Ah, mais j'ai eu l'impression d'avoir eu », ça vous fait plaisir, ou est-ce que vous êtes en dehors de ça? Vous dites oui, vous devinez, ce qui est très bien à la radio. Mais...
non, mais moi je voulais laisser Mathieu parler, c'est pour
avant
ça.
Tout, des hommes de radio. Nous sommes des hommes de radio.
Mais en tout cas, c'est vrai que.
Vous avez rencontré des gens, par exemple, qui ont connu Pierre Hessian.
Exactement.
Et qui vous ont dit tu m'as rappelé ma jeunesse.
Alors, ils m'ont littéralement dit Pierre Hessian n'était pas vraiment comme ça dans la vraie vie, mais ça nous a fait plaisir de le rendre hommage comme ça. Enfin, en gros, il était peut-être pas aussi dans le sourire, etc. Mais ça leur a fait plaisir. En tout cas, j'ai fait encore une fois. Moi, c'était sous la direction de Richard Linklater qui m'a validé ça. Et ils voulaient faire un duo comme ça avec Jean-Luc Godard, donc c'est parfait. Mais ça leur a fait plaisir de voir Pierre Hessian dans un film, juste ça. Et je me suis dit, purée, si déjà ils sont plaisir de voir dans un film, c'est bon, c'est validé, je suis bien content.
Raoul ?
Moi, il y a une chose qui je viens d'avoir un souvenir, c'est justement ces fameux essayages costumes qui décidément ont décidé de beaucoup de choses.
C'est vrai.
Et en fait, ce jour-là, quand je suis arrivé après la coiffure et le maquillage, il y a des gens qui, et même avant, au moment où j'arrive, il y a plein de gens. notamment la costumière qui dit « Ah, vous êtes Raoul Coutard, vous. Oui. » Ils ont vraiment très bien choisi. Et en fait, juste d'avoir entendu ça lors de mon premier contact avec l'intégralité du film et de l'équipe, bah, il y a un truc voilà, qui s'est apaisé tout de suite. Je dis « Bon, bah, c'est bon. » Et puis ça ne m'a pas du tout... je ne peux pas poser la question une seconde.
Vous, vous avez rencontré des gens qui l'ont connu ?
Non, j'ai échangé avec son petit-fils.
Ah ouais, là, c'est encore une autre pression quand même.
Oui et non, enfin c'est marrant, c'est un mec sur Instagram qui envoie un message. J'aurais dû me, il me dit oui, voilà. Je me doutais ce qu'il s'appelle.
Faites attention, il veut peut-être de l'argent, c'est peut-être pas vrai.
Non, pour le coup, j'ai fait mon enquête.
Est-ce que je peux avoir une carte PCS, Mastercard? Non, arrête avec ça.
Non. Non, je l'embrasse d'ailleurs s'il écoute. Et il m'a posé des questions sur le film, parce que c'était avant qu'on aille à Cannes, avant la sortie, donc il avait juste vent de l'existence du film. Il avait entendu que potentiellement son grand-père était voilà, et donc il voulait savoir si c'était bien moi. Il avait fait sa petite enquête et après on a échangé. Il m'a envoyé un très joli dessin, une photo d'un dessin fait par
mais la photo a été faite
au Vietnam. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc c'est le dessin qui a été fait au Vietnam, c'est une caricature de son grand-père, donc de Raoul, et c'est une très belle photo que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup touché qu'il fasse ça.
Alors, on revient après une petite pause musicale. On écoute The Olympics avec le titre Holy Gully. Il est 19h16 et vous êtes sur Radio Campus Paris.
Me
c'était Early Gully de The Olympics et tout de suite la suite de l'interview avec Christophe et nos invités Benjamin Cléry et Mathieu Pencina.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
J'ai failli avoir une collision avec une virgule, mais mon Dieu, j'y ai échappé. Je m'en remets pas là. J'ai encore un peu peur.
J'ai pris un point,
faut que mon souffle.
Un point virgule une fois dans la tête. Très bien. Très drôle.
Je veux juste dire que Ali Bali, c'est quand même un extrait de la bande originale du film Nouvelle Vague de Richard Linklater. Vous nous avez dit tout à l'heure, Mathieu Pencina, que vous aviez commencé à lire et que vous étiez arrêté à la biographie de Raoul Coutard et que vous aviez arrêté au moment du film. Est-ce qu'après vous avez lu la fin ou pas du tout?
Alors en fait, je me suis posé la question de savoir est-ce que je devais le lire entier ou pas. Et je me suis dit,
peut-être pas lire.
Je me suis dit non, je vais pas le lire pour pas me faire avoir par tout ce qu'il raconte après. Parce qu'à l'époque, l'idée c'était de jouer les personnages à l'époque, donc pas encore connus avant qu'ils soient dans ce milieu, avant qu'ils soient pour la plupart des monstres sacrés de leur domaine.
Est-ce qu'on peut juste dire que lui, à la base, c'est pas du tout un chef opérateur de cinéma?
Non, à la base, il
fait du documentaire.
Il vient de l'armée. C'est un mec qui a couvert il était photoreporter au Vietnam, notamment. C'était un des premiers à filmer les combats en direct. Parce qu'avant, c'était des reconstitutions. C'est Delattre de Tassigny qui a dit non, on va arrêter les reconstitutions. On va embarquer avec nous les photoreporters. Et donc, il s'est retrouvé à filmer les combats. Et je disais un truc juste avant, mais je sais plus ce que je disais.
Bah, vous disiez que vous vouliez lire ce qu'il avait vécu et pas.
J'ai toujours posé la question de savoir est-ce que je lis jusqu'au bout et est-ce que c'est de la paresse ou est-ce que c'est vraiment du travail que de s'arrêter avant. Et j'ai toujours pas tranché cette question-là. Et du coup, je n'ose pas lire la fin parce que voilà, je pourrais
dire. J'avais peur d'être déçu.
Mais entre-temps, j'ai dû lire autre chose. Alors, du coup.
Alors, vous, par contre, Benjamin, vous en avez un peu parlé. Est-ce que le metteur en scène, Richard Linklater, lui, il en avait une vision? Est-ce qu'il les connaissait? Est-ce que. Il a une vision très, très précise de ce qu'il attendait de vous.
Alors, Richard Linklater, je ne sais pas s'il le connaissait personnellement. Alors, comment il travaille, Richard, je trouvais ça fou, moi, comment il travaillait. Ouais. Vraiment, déjà, il ne nous obligeait jamais à faire quelque chose. Il travaillait par question. Ouais. Ça, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que quand nous, on arrivait avec une question, il nous répondait par une question. Ah. Et là, bon, c'était très, très
c'est
bien.
C'est un psy, en fait.
C'est un combat de questions. Mais en fait, c'est super intelligent de faire ça. Il impose rien. Et il veut, encore une fois, que ce soit nous qui à Lyon alimenter le personnage qu'on a. Alors ce qu'on a en tête des fois c'est pas exactement ce qu'il veut, donc il nous repose une petite question et on capte par la question ce qu'il aimerait, et là en fait on fait un énorme schmilblick d'idées dans notre tête et ça fait ce qu'il veut exactement.
Mais je suis tout à fait d'accord avec cette fascination, mais là où je suis pas tout à fait d'accord c'est que pour moi j'ai senti que c'était que des questions très ouvertes, très c'est pas des questions orientées qui disent est-ce que tu crois vraiment qu'il fait ça. Et en fait, par exemple, une fois, je me souviens un premier jour de tournage dans le film, donc c'est pas mon premier jour à moi, mais le premier jour du tournage d'À bout de souffle. On est dans un café, et à un moment, il y a Jens Hiberg qui fait une blague, et moi je rigole. Et Richard, il vient me voir, il me dit est-ce que tu crois que Raoul, il rigole à ce moment-là? Il me pose la question, mais sincèrement. Et c'était pas genre, tu crois vraiment qu'il rigole? Et je lui dis oui, parce qu'en fait, ça, je pense qu'en fait, il est encore en rapport de plutôt sensible à Jens Hiberg et moins à. Il se méfie encore de Jean-Luc, etc. Donc je lui explique. Et Richard, il me dit ok, très bien. Et la prise d'après, j'ai rigolé. Et j'ai senti que mon rire était peut-être plus juste aussi, parce qu'il était nourri de quelque chose de plus profond que juste je réagis à une blague. Et c'est comme ça qu'il l'a amené jusqu'à son terme, quoi. C'est.
Voilà. La nouvelle vague, c'est une très bonne réponse. La nouvelle vague, c'est aussi une révolution parce que c'est des nouvelles conditions de tournage. Est-ce que sur le plateau, il essayait aussi de vous faire tourner comme on a tourné à l'époque, dans une certaine urgence, dans du bricolage? On voit très bien, par exemple, quand on voit la scène sur les Champs-Élysées où vous, donc Mathieu, vous êtes a priori dans un truc de livraison, dans un tripper. À chaque fois, je me trompe.
Triporteur de la poste.
Triporteur, voilà. Donc, je ne sais pas comment expliquer ce que c'est.
En fait, c'est un petit tricycle avec une grosse. C'est comme un vélo cargo, ce qu'on appelle aujourd'hui
un vélo cargo. Caché dedans, en fait.
Et en fait, je suis caché dedans avec la caméra. Il a fait un petit trou pour la caméra. Et c'est comme ça qu'il a filmé. Ça, c'est une vraie histoire. Hein.
Qu'il arrive à filmer les Champs-Élysées sur les Champs-Élysées.
Exactement.
Et donc, vous, est-ce qu'il y avait cette même esprit? Vous êtes allé un peu à la Hussarde sur les Champs-Élysées filmer?
Pas
ou est-ce
qu'il
a demandé toutes les autorisations?
Ah, non, ils ont demandé sur un film comme ça. On est obligé de demander, hélas, aujourd'hui, toutes les autorisations. Et je dirais même que c'est l'exact inverse parce que, par exemple, plusieurs fois, ça m'était arrivé, notamment sur ma première scène où j'ai une scène dialoguée un peu importante. Et plusieurs fois, on s'est retrouvé à faire des prises dans un sens, dans l'autre, champ, contre champ, plan large, plan serré, etc. Et au bout d'un moment, il disait bon. voulez en refaire une encore? Ouais, et nous, on disait, ouais, pourquoi pas. Il dit, bon, bah, ok, d'accord. Et on en refait une, quoi. Et c'est vraiment très, très tranquille, très détente. Et pas du tout dans le rush, pas du tout dans le comment dire, l'intensité le côté resserré que peut avoir un Godard, je pense. C'est vraiment l'exact opposé, même. Mais en soi, je pense que c'est une façon d'être très nouvelle vague. Parce qu'en fait, la nouvelle vague, c'est pas tant la méthode de Godard que le fait de prendre le contre-pied de l'époque dans laquelle on est. Parce qu'en fait, Godard, quand il fait À bout de souffle, il invente le jump cut, c'est-à-dire le fait de couper à l'intérieur des plans. Il invente la caméra épaule, il invente tout ça. Et il dit, on va faire un film avec tout ça, on va faire un film sans les raccords, on va faire un film où je donnerai les dialogues en direct, etc. Tout l'inverse de ce qui se faisait à l'époque. Et il a montré qu'on pouvait faire des films comme ça. Et c'est ça, pour moi, l'esprit Nouvelle Vague, un des esprits Nouvelle Vague, parce qu'il y a plusieurs choses, mais un des plus importants, c'est ça, c'est cette idée de on peut faire autrement que la norme actuelle. Et du coup, dans cette époque où tout est très resserré dans le temps ou très intense, où il faut absolument avoir de la rentabilité, faire le maximum de plans, le minimum de temps. On le voit, nous on tourne sur plusieurs trucs, on fait de la télé, on fait on fait plein de trucs, et c'est des rythmes qui sont très différents. Hein. Mmh. On peut tourner, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais
Des minutes utiles plus.
Voilà, exactement. Ouais. Pour la télé. Et nous, on était à 30 secondes utiles quoi, par jour. Non, c'est pas vrai. On
était à une minute trente, je pense.
Une minute trente, je pense, on était.
Et pourtant, le film a été tourné assez rapidement parce que c'est seulement 30 jours de tournage.
30 jours de tournage.
Pour 1h45, c'est pas mal. Hein.
Donc voilà, on fait le calcul chacun. Et puis on revient demain.
Et ça veut dire qu'avant, vous avez beaucoup travaillé ensemble à répéter comme
on
du
a passé
théâtre,
beaucoup de temps à répéter, ouais. Ouais, on a répété.
Il n'y avait pas qu'un groupe WhatsApp pour créer cette camaraderie.
Il y a eu 10 jours de répétition.
Exactement. Mais ce qui était trop bien dans ces 10 jours de répétition, c'est que vraiment, on se baladait dans Paris avec Richard Linklater. On faisait les tournages. Enfin, on faisait les scènes aux endroits. Donc on allait au café, on allait dans les rues, puis on se promenait vraiment. On était une équipe de film juste sans caméra, comme des genres de touristes avec le gros manteau là.
Vous n'étiez pas en costume.
On n'était pas en costume. Hein.
Non.
Là, on était vraiment juste avec des gros manteaux. On avait le scénario et Richard nous demandait des fois, regardez, est-ce que vous voulez changer des petites choses pour plus vous approprier le texte et tout. C'était juste du bonheur.
Et sauf qu'en plus, comme il parle pas français, quand on voulait faire des modifications, il fallait.
Lui, Richard, pas votre collègue.
Ah non, Benjamin.
Sinon, c'est fait avoir plus début.
Il parle de ce ch'tic. Bon, on va pas revenir là-dessus. On va pas venir sur son accent. Qui est inaudible pour la plupart des gens. Mais...
Bon, je fais ce que je peux.
Et Richard, il parle pas français, donc il fallait expliquer la différence entre deux mots très proches, par exemple entre écouter et entendre. Il y a une petite nuance qui on peut dire les deux, mais souvent il y a quand même une petite nuance. Et voilà, va expliquer en anglais la différence entre écouter et entendre. Bah, on était à ce genre de pinaillage et c'était hyper important. Et c'est ça qui était. En fait, il nous a laissé l'espace d'envahir le film. Il nous a laissé le prendre en main et l'attraper et en faire quelque chose et en faire notre film aussi, quoi.
Le film a été projeté à Cannes. C'était votre première fois, tous les deux?
Ah oui.
À Cannes?
Oui, de projection. Oui, pardon.
Ah oui,
parce que sinon, sinon, on va rentrer. Je trouvais qu'on avait dérapé un petit peu. Voilà, pardon. C'était notre première fois à Cannes, ouais. C'est la première fois que j'ai rencontré Rachida Dati.
Oui,
vraiment m'a traumatisé parce que c'est deux fois que je cite son nom. Donc,
Benjamin Cléry, vous avez rencontré Quentin Tarantino.
Mathieu aussi. Quentin Tarantino a serré la main de tout le monde. Mais
on est quand même à deux personnes de Quentin Tarantino maintenant, grâce à vous.
C'est ça. C'est surtout encore une fois de se dire que dans notre vie, c'est arrivé ce moment-là. Genre, il y a Tarantino qui nous a vus juste déjà. Bon, voilà, il nous a vus.
Vous l'avez vu
jouer.
Il a rigolé.
Et à la fin, ils nous salament. Ils disent, oh. Enfin, après, je vais faire un accent américain qui peut-être, attention, c'est un peu
limite. Traduction.
Oh my God, this is fantastic. Un truc dans genre. Il n'a pas dit ça comme ça, parce que lui il est américain, donc il sait parler anglais.
Mais il sait pas parler ch'ti.
Je lui ai appris. Enfin, c'était galère. Oh là là, une demi-heure, lui apprendre le ch'ti, c'était hyper chaud.
Mais il parle anglais avec un accent ch'ti.
C'est
inaudible.
C'est vrai, personne ne le comprend maintenant. Mais d'ailleurs, il a fini sa carrière.
Il parle texan, en fait.
C'est terminé.
Du coup, en fait, c'est le texan. C'est ça l'accent.
Oh my God, story. Oh, so free. Moi, je sais pas, entendre des trucs. Mais en tout cas, Tarantino, qui était là, on le regardait du coup pendant le film. On était tous à le regarder pour voir s'il rigolait au moment où on passait et tout. Et à la fin, il nous serre la main, il nous félicite. Moi, le truc où j'ai vraiment. C'était vraiment dingue de le voir vraiment Tarantino en pleurs à la fin de ce film-là. C'est vrai que moi, j'ai juste eu du bol parce que Pierre Hissian était vraiment ami avec Tarantino. Et c'est pour ça qu'il m'a dit purée, je suis trop content d'avoir vu Pierre sur l'écran. Et je me suis dit,
Quentin, stop it. I am crying, arrête. I do a malaise, Quentin, arrête. Non, c'était trop fou, c'était trop dingue.
Allez, en un mot, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps.
Désolé.
Vos projets, vous... Non, mais au contraire, c'est super. Vos projets, là, vous, actuellement, vous travaillez ?
Par bonheur, oui, des petites choses en tout cas, dans quelques films. Là, il y a un téléfilm qui s'appelle C'est qui le chef, où j'ai un rôle dedans qui va passer bientôt.
C'est la cuisine, ou ça n'a rien à voir?
C'est exactement, je suis un commis nulos du Nord. Et ouais, les gars, et ça c'est bon. Et j'ai tourné aussi un petit peu pour le prochain Quentin Tarantino. Non, Quentin Dupieux, pardon. Enfin, il y a des petites choses en tout cas qui arrivent.
Il y a un truc avec les Quentins.
Exactement.
Il y a un trop de Quentin.
Mathieu
Moi, je sors d'un truc qui a été énorme sur Arte, qui s'appelle Les Burgers Sanglants. C'est une fiction interactive tournée et filmée en direct, diffusée en direct. C'est-à-dire qu'en fait, les gens regardaient le film et pendant le film, il y avait des questionnaires et les gens pouvaient voter pour orienter les choix des personnages. Et on nous informait dans une oreillette et on adaptait le scénario en fonction. Donc ça a été un énorme boulot à fournir et on a tourné ça le 31. Donc là, je me repose un peu et puis après, j'ai plein de nouveaux projets qui arrivent.
Super,
super.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci,
c'est la fin de cette interview. Merci,
merci
Benjamin.
Merci
Mathieu.
Merci.
Vous allez rester un petit peu avec nous, c'est le Flash Info.
Hein. Bah bien sûr.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Alors c'est le tour de l'actualité, c'est avec vous Hélène. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Francesca. Alors d'abord l'actualité internationale avec la guerre au Soudan. Une guerre qui fait peu parler d'elle depuis son déclenchement en avril 2023, mais qui s'est brutalement rappelée à l'attention du monde avec la prise de la ville d'El Fasher la semaine dernière. Cette offensive s'est accompagnée de nombreuses atrocités qui entraînent actuellement la fuite de dizaines de milliers de civils. Rappelons que le conflit a déjà provoqué près de 13 millions de déplacés pour un pays de 50 millions d'habitants. La plupart sont à l'intérieur du territoire, notamment à Taouila où s'entassent près de 500 000 réfugiés. Du côté de l'Europe maintenant, une nouvelle accueillie avec satisfaction par les défenseurs de la vie privée. Le Danemark, qui préside l'Union européenne en ce moment, a décidé de retirer du projet de règlement européen Chat Control la partie concernant la surveillance des messageries. Chat Control, c'est ce texte qui vise à prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants et la proposition controversée concernait plus précisément la surveillance des communications chiffrées. Comme celle envoyée via Signal par exemple, qui aurait été scannée systématiquement pour détecter les contenus à caractère pédosexuel. Les spécialistes estimaient qu'un tel dispositif revenait à installer un logiciel espion sur les appareils de tous les utilisateurs et beaucoup voyaient cette proposition comme un véritable cauchemar en matière de droit à la vie privée. En France maintenant, où les débats sur le budget reprennent, avec notamment cet après-midi le rejet des amendements pour réformer les droits de succession, des amendements qui avaient été proposés par les groupes de gauche, notamment pour mieux taxer les gros héritages. Loin de l'Assemblée nationale, l'actualité, c'est aussi malheureusement cette marche blanche qui a eu lieu près de Lyon en hommage à Claudine, 135e victime de féminicide de l'année. Claudine, qui avait 35 ans, était une survivante du génocide du Rwanda. Elle laisse derrière elle trois enfants âgés de 6 à 12 ans. Enfin, un tirage au sort insolite lancé aujourd'hui à Paris où la crise du logement touche aussi les cimetières. Difficile de trouver un emplacement disponible, pourtant de nombreuses sépultures sont revenues dans le domaine public. Impossible de les attribuer pourtant à des nouveaux venus. Elles ne peuvent plus être utilisées car elles sont en trop mauvais état, mais elles ne peuvent pas être détruites car ce sont des monuments historiques pour beaucoup. La mairie de Paris propose donc aux Parisiens un deal original. Ils s'engagent à les restaurer et en échange, ils pourront, le moment venu, se couler dedans en paix. Dans un premier temps, 30 monuments sont mis à la loterie. Le tirage au sort aura lieu le 19 janvier. Ça a ouvert aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Mais attention, je vous préviens, les frais de restauration peuvent être élevés et s'ils ne sont pas réalisés, vous perdez votre droit d'utiliser la tombe qui a été gagnée.
Merci beaucoup Hélène. Alors tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Blackout avec le titre When I am on that dub.
Trying to make me crazy, stop, motherfucker. Huh? I don't hold no responsibilities for these motherfuckers.
But you are responsible for the lies you've taken, for the dreams you've turned into nightmares.
Nightmares? What about my nightmares? What about the nightmare I lived in? What about the nightmare I lived in ever since I was born to this motherfucker? Who is responsible for that?
Right. All of them are created. So now the motherfucking nightmare ends when you say it does.
told you before that I don't give a fuck. Smoking on sag, sweating the track. Me and my niggas watching our back drop. Mr. Kipper Stain, number two black. Got production called Dream World, man. Talking about killing up bitches in those cannabis sang. We smoking thugs, Hamtown click. Niggas blowing, can't be itching ass busters. Found him, but I'm smiling with that man in my hand. Fuck them folks, 4D living wild. Smoking, bumping and shit. Play a posse, BBB. Blodging hoes, betray G. Welcome to the other side. The darker side where busters cry. Screaming, I don't give a fuck. Pointing my cat up at the sky. Bring it on, Bob and D. Cosmic blowing, swish the sweet. Ain't you know, here we go. Smoking on perfecto, ho. Getting up on this dope with the scope. Beaming on your back.
Hear it scream, hear it scream. Tripping out the shit.
Getting up on this dope with the scope. Beaming on your back.
Hear it scream, hear it scream.
Nous venons d'écouter Blackout avec le titre When I Am Not On That Dub. Bah, je vais y arriver. Il est 19h36, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Et la matinale de 19h. Le magazine de société.
Et c'est l'heure de la chronique. Et aujourd'hui, c'est Tom. Bonsoir, Tom.
Bonsoir.
Et aujourd'hui, vous nous parlez football.
Exactement. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu'on est champion d'Europe. C'est par ces mots que s'exprimait notre cher Nasser, le président qatari du club de football du Paris Saint-Germain, début juin, au lendemain du premier titre de Ligue des Champions remporté par ses joueurs, après lequel ceux-ci couraient depuis 14 ans maintenant, depuis le rachat. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, avait annoncé début août dernier que l'objectif pour la saison à venir était de progresser encore. Un nouveau champion européen qui a soif de but donc, soif de domination, très peu rassasié malgré son titre, malgré la Super Coupe vaillamment gagnée qui suivait, malgré le triplé national, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Il est sûrement inutile de rappeler le ballon d'or d'Ousmane Dembélé, venu couronner la saison la plus fabuleuse de l'histoire du club. Depuis, la suivante s'est lancée il y a 3 mois, et c'est peut-être le moment de faire un point à la veille d'un choc titanesque et tellement alléchant entre les joueurs de la capitale et le Bayern Munich, seul cador qui semble regarder les Parisiens dans les yeux, voire éventuellement un peu plus haut. Cela fait longtemps qu'un tel sommet n'avait pas eu lieu, et c'est dire. Dans le groupe de 36 équipes, Paris est premier au classement, le Bayern deuxième. 3 matchs de la nouvelle saison européenne se sont déroulés, c'est simple, le Bayern a remporté les 3, Paris aussi, et pas des moindres. Pour rappeler les faits, PSG Bergame, c'est 4-0, le Barcelone de Yamal et Pedri, victoire 2-1 des Parisiens chez les Blaugrana, avec une équipe terriblement diminuée. À l'époque, Marquinhos, Dembélé, Doué, João Neves, Fabian Ruiz étaient blessés. Et puis s'il fallait encore prouver que Luis Enrique avait raison en août, victoire 7-2, non pas au Masters 1000 de Paris qui a vu Yannick Sinner couronné, non, mais bien chez les Allemands de Leverkusen avec un score de tennis. Pourtant, rien n'est acquis pour Paris, car si les résultats en Ligue des Champions sont sans équivoque, en Ligue 1, c'est plus poussif. Même s'ils sont toujours leaders du championnat français, on s'endort souvent sur le canapé le week-end, parce que oui, c'est un peu ronronnant. Un relâchement peut-être ? Doit-on mettre cela sur la banalisation de ce titre qui revient quasiment chaque année aux joueurs ? Probablement. Il n'empêche, une défaite dans le Classico contre Marseille qui fait un peu tâche, et des matchs nuls à la pelle contre des Lille, des Lorient, des Strasbourg, et quelques boulettes du très prometteur gardien Chevalier recruté cet été, qui n'est pas bien en forme, et bien tout ça, Francesca, ce n'est pas rassurant, il faut le dire. En face, c'est le Bayern, quart de finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, que le PSG a battu 2-0 il y a 4 mois. Pourtant, depuis, c'est une montée en puissance extraordinaire. Munich est invaincu, 15 matchs, 15 victoires. En Ligue des Champions, 4-0 contre Bruges, qui n'est pas un cador certes. 5-1 chez le petit pousset chypriote Paphos, mais surtout une victoire 3-1 contre Chelsea. Solide donc, mais surtout une ultra domination de sa Ligue 1 à lui, la Bundesliga. Et là, ça ne ronronne pas comme au Parc des Princes, non. 9 matchs, 9 victoires, dont une dans son classico contre Dortmund, dont une aussi contre le pauvre Leverkusen pour répondre aux Parisiens. Et puis le Bayern, quasiment au complet sans Moussiala, se réjouit d'une nouvelle blessure de Doué la semaine dernière et d'une présence incertaine, de Dembélé. Bref, allez-vous regarder, mes amis et moi, oui, sans aucun doute. Et sachez qu'on n'en peut plus d'attendre. Demain, 21h, le rendez-vous est déjà pris.
Merci beaucoup. Et bien sûr, on sera devant le match, Tom. Alors tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et c'est avec vous Diane, bonsoir Diane.
Bonsoir Francesca.
Alors ce soir nous allons parler Expo, Fête libre et répression et ce sera, donc c'est avec notre invitée Mathilde Tales of Rave, l'organisatrice. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Bonsoir Mathilde, donc c'est moi qui vais vous interviewer. Vous êtes organisatrice de l'exposition Fête libre et répression qui a lieu au Sample à Bagnolet. Déjà, comment vous vous sentez à quelques jours de l'ouverture et des premières festivités ?
Alors, toujours un petit peu stressée avant d'exposer, parce que là, particulièrement, je suis obligée de monter l'exposition le jour même. Donc, c'est toujours un petit challenge de savoir est-ce que les clous vont tenir, est-ce que tout va bien aller. Mais heureusement, j'aurai de l'aide parce que j'ai des super copains et copines. Donc, je suis super enthousiaste. Après, pour tout vous dire, c'est la 7e fois que je fais mon exposition. Donc, je commence à être quand même un peu rodée. Mais c'est toujours hyper intéressant parce que j'ai des publics assez différents qui viennent voir l'expo. Et donc, j'ai toujours des échanges qui sont assez ouf en fait. Ça peut être des familles, ça peut être j'ai déjà eu des touristes américains par exemple quand j'exposais place de l'Hôtel de Ville, et du coup c'est toujours intéressant de voir des gens qui connaissent pas forcément la fête libre, d'expliquer et d'informer sur la répression quoi.
Et d'ailleurs, comment est-ce que ça c'est, vous êtes enfin la volonté de l'exposition c'est d'informer, de sensibiliser à la répression en free party. Pourquoi pour vous c'était nécessaire d'en parler et de parler des free parties en particulier, et comment vous avez eu l'idée de cette exposition, comment est-ce qu'elle est née?
Alors ça s'est fait un peu par hasard, c'est parce que j'ai fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Et en fait, je ne m'attendais pas à récolter autant de témoignages. En fait, j'en ai récolté une soixantaine après le Technival de Redon en 2021, où il y avait eu des gros affrontements. Il y a eu un jeune homme de 22 ans qui s'appelait Alban, qui a perdu une main. Et il y avait les pompiers qui ne pouvaient pas rentrer sur le site pour évacuer les blessés, sauf les forces de l'ordre. Donc il y avait tout un truc qui... On avait l'impression qu'il y avait une vie qui en valait plus qu'une autre. C'était vraiment hyper, hyper traumatisant, en fait. Donc moi, j'étais sur place, j'ai pris des photos. Et sur le moment, je ne me rendais pas trop compte. Mais après coup, je me suis dit, c'est intéressant de montrer ces images, d'en parler, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et d'informer sur la répression, puis aussi de laisser une trace, parce que c'est vrai qu'en free party, on a beaucoup une tradition orale, il n'y a pas beaucoup d'images, c'est un milieu underground, donc en fait, je trouvais ça intéressant de faire une expo un peu plus institutionnelle pour toucher de nouveaux publics, hors des réseaux sociaux, et puis avoir des discussions autour de ça. Et au final, j'ai jamais eu de personne qui n'était pas choquée de ce qui s'était passé, en fait.
Et d'ailleurs, en septembre dernier, Bruno Retailleau a pris la parole après une rave party qui s'est déroulée dans le massif des Corbières, dans les Pyrénées. Il a partagé sa volonté de durcir la législation et de criminaliser l'organisation de fêtes. C'est quand même assez choquant d'entendre ces mots. Quelle conscience que ça a eu sur cette prise de parole, sur vos réflexions, mais aussi sur l'organisation de cette exposition, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Moi, je me suis dit que c'était d'autant plus important. En fait, depuis, je prends aussi pas mal la parole sur les réseaux sociaux pour essayer d'informer, de démocratiser un peu, qu'on comprenne ce que c'est la free party quand on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori. Et en fait, quand on voit Retailleau dire on les encercle et on les tape, ou Bardella dire c'est 2000 punks à chiens, on voit que c'est toujours une image péjorative, qui a toujours une volonté de pénaliser. Et en même temps, il y a Macron qui fait une rave à l'Elysée juste après les affrontements à Redon. Donc c'est vraiment super bizarre. Et puis il veut aussi mettre les musiques électroniques au patrimoine culturel de l'UNESCO, tout en confisquant le matériel. Donc on veut protéger l'immatériel, mais confisquer le matériel parfois illégalement, parce qu'en fait, depuis l'amendement Mariani qui a été voté en 2001, en fait, on doit déclarer en amont les événements s'il y a plus de 500 personnes. Et en fait, maintenant, on voit les saisies. Il y a 70% des saisies qui sont illégales parce qu'il y a moins de 500 personnes. En fait, il y a une saisie tous les week-ends de matériel de sono.
Oui, c'est ce que disait un article. Désormais, celle-ci interdit les rassemblements festifs non autorisés de plus de 50 personnes. Donc, c'est sûr que c'est vite, ça se remplit vite, et surtout sur des événements comme ça, c'est assez complexe d'organiser un monde qui est assez, j'imagine aussi mouvant. C'est pas très cadré et organisé. Enfin, après, je ne suis pas une spécialiste des rave parties, mais.
Alors en fait, on se dit souvent qu'il n'y a aucun cadre, que c'est un peu une zone de non-droit, peut-être d'autres auditoristes pensent ça, mais en fait, c'est vrai que voilà, il y a cet esprit libertaire et communautaire où le lien social prime sur le lien de consommation, donc c'est un peu anticapitaliste, enfin c'est carrément anticapitaliste même, et c'est une zone d'expérimentation où pour moi, par exemple, en tant qu'artiste, c'est génial parce que je suis libre de créer. Mais il y a quand même, en fait, l'autogestion, c'est décider les règles ensemble. Mmh. Et donc, c'est pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des stands de réduction des risques.
Oui.
C'est aussi une volonté d'accueillir tout le monde, en fait, d'être contre les discriminations pour toutes les personnes marginalisées. Parce qu'à la base, la TOF, ça s'est créé en opposition aux lois de Margaret Thatcher en Angleterre qui fermaient les clubs après 2 heures. Et donc, les personnes qui voulaient se rassembler spontanément ont créé ce style de fête d'aller dans un champ ou un hangar abandonné. Mmh. Et donc, c'est un peu aussi occuper l'espace public. Et puis, on a souvent la critique par rapport aux agriculteurs et aux agricultrices, par exemple. Mais c'est vrai qu'en fait, il y en a pas mal qui sont d'accord pour prêter leur terrain, mais après, ils subissent des pressions des autorités où on leur dit « vous allez avoir des 100 000 euros de dégâts si vous leur laissez votre friche », parce que c'est que des espaces en friche. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a quand même une volonté d'être assez loin des habitations, de pas embêter, mais juste de pouvoir se retrouver, se soutenir et avoir une zone d'expérimentation alternative où on crée un espace pour les artistes, les DJ, ceux qui font du mapping, et que tout le monde puisse créer ensemble, quoi.
Bah oui, que ce soit un lieu aussi, que la fête ce soit aussi un lieu de sociabilisation et de collectif, et donc un lieu politique.
Exactement.
Pour finir, le 7 novembre, vous allez ouvrir un peu donc, l'exposition avec un événement qui s'appelle l'Apéro TOF. C'est quoi et qu'est-ce qui va se passer en particulier ?
Alors du coup, ça va être la TOF en même temps que l'expo, donc de 17h à 23h30. Et donc ce collectif, c'est un collectif qui soutient les sons de système, qui reverse 50% de leurs bénéfices à des sons de système. Et voilà, ils essayent de promouvoir la culture de la free party. Donc ils font des soirées à thème, par exemple, il y en a une sur le thème queer. Et donc c'était pour informer aussi sur ces espaces, que c'était des espaces pour les personnes marginalisées, les personnes queer, contre les discriminations. Et donc il y a un peu des mots d'ordre à l'entrée comme ça. Et puis le 8 novembre, ça sera pour récolter des fonds pour des étudiants bloqués à Gaza.
Okay.
Donc voilà, chaque soirée servira à une bonne cause.
Comme ça, vous vous cultivez et en même temps, vous participez à la cause, donc c'est une bonne chose. Pour conclure, l'exposition Fête libre et répétition, c'est le 7 novembre et le 8 novembre. 18 Avenue de la République à Bagnolet, au Sample. Et du coup, je vous invite à y aller et à faire la fête et en même temps à vous cultiver. C'est quand même une belle chose.
C'est génial. Et je serai là tout au long, donc on pourra discuter.
Bah oui, en plus.
J'aurai des petits tirages aussi pour financer, moi, mon expo, pour continuer à la faire partout en France.
Super.
Donc venez nombreux.
Merci beaucoup, Mathilde.
Merci à vous. Beaucoup, Mathilde. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale. On écoute Acid Pash avec le titre Urukai. Il est 19h53, vous êtes sur Radio Campus Paris. Nous venons d'écouter Acid Patch avec le titre Urukai. Tout de suite, c'est la chronique libre.
La matinale de 19h.
La chronique, c'est avec Eloane. Bonsoir Eloane. Il semble que vous êtes très en colère ce soir, c'est ça?
Oui, bonsoir Francesca, bonsoir Radio Campus, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je suis ravie d'être avec vous, mais en effet, je suis aussi et surtout hyper remontée à cause d'un acteur omniprésent dans le paysage français qui est François Civil. La semaine dernière au cinéma, je suis allée voir un de ses films que j'ai trouvé tellement nul que j'en ai remis toute ma vie en question. C'est Deux pianos d'Arnaud Desplechin. Déjà, si je vais vous décrire grosso modo ce réalisateur, je vous dirais que c'est un peu l'étudiant en cinéma qui veut nous prouver qu'il a percé. Sauf qu'au lieu de faire des stories au Festival de Cannes, il tourne avec des figures ultra bankable, genre Marion Cotillard, il est assez doux. Dans chaque film, il adopte des discours très péteux et une façon d'écrire ses personnages aussi archaïque et stéréotypée que les anecdotes de Louis Sarkozy. Je voulais passer mes nerfs ici parce que ce qui m'a encore plus frustrée, c'est l'avis de la presse. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu le même film que la critique. Les Inrocs ont mis 4 étoiles et décrivent ce film comme une, entre guillemets, divine surprise. Alors je suis d'accord, le film est une divine surprise si on le regarde les yeux fermés, sans le son et sans François Civil. On dirait que ma violence est gratuite et que je viens juste sur Radio Campus pour le harceler, mais laissez-moi vous faire un petit résumé du film, un chouïa spoilant. C'est l'histoire de Mathias, un pianiste virtuose apparemment, même si on le voit qu'une seule fois jouer un truc stylé. Il revient en France après de longues années à enseigner au Japon pour un concert avec sa mentor Elena, proche de la retraite. Malgré ça, il replonge dans sa vie d'avant en recroisant son amour de jeunesse qui trompait son mari avec lui. Il rencontre même le fils de cette femme qui lui ressemble étrangement. Même pas besoin d'en dire plus, je pense que ces quelques phrases suffisent à comprendre toute l'intrigue et même à deviner ce plot twist pas du tout prévisible. Pendant 115 minutes, on voit un François Civil alcoolique, sombre et torturé, au bord de la dépression parce que l'amour de sa vie est marié. Heureusement, le monde est bien fait parce que le mari meurt soudainement dans le premier tiers du film. J'ai rarement vu un réalisateur autant assumer ses facilités scénaristiques. On se retrouve donc avec une conclusion carrément immorale, en mode tromper son mari et tomber enceinte, c'est pas grave, s'il meurt de toute façon, le deuil, ça dure 15 minutes, parce qu'après on peut courir dans les bras de notre ex d'il y a 10 ans pour redevenir des gosses en dépendance affective. Tout ça sous le régime du « fuis-moi, je te suis ». En plus de ça, chaque fois que François Civil ouvre la bouche, mes yeux pleurent du sang. Quand il se met en colère, je rigole et quand il est supposément brillant, mes yeux ne scintillent pas le moins du monde. Que ce soit dans L'amour ouf, Pas de vague ou Bac Nord, il a beau changer de registre que ça ne me touche même pas du bout du doigt. Dans Deux pianos, c'est aussi dû à la très mauvaise direction d'acteur, parce qu'il n'y en a pas un seul qui est bon, à part Elena, la fameuse pianiste mentor, mais on la voit plus fumer des clopes que dire des trucs intéressants. Moi, en fait, j'aimerais bien à un moment donné qu'on arrête de se moquer de nous à vouloir reproduire des films bourgeois et autoristes où aucune originalité ne transparaît. En tout cas, une chose est sûre, je pense que je joue mieux l'agacement que François Civil, comme vous venez de le voir dans cette chronique.
Merci beaucoup, Eloane. Merci. Alors, c'est la fin de cette matinale. C'était Francesca à l'interview. Merci à nos invités. Christophe... à l'interview, Francesca à l'animation, pardon. Christophe à l'interview, Hélène en flash info, Tom en chronique actu. Le Zoom, c'était Diane et la chronique libre, Eloane, très en colère. On revient demain, même heure, même fréquence. D'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org pour écouter tous nos podcasts et la matinale RCP sur Instagram. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée sur le 93.9 et à demain.